Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de vous être rendus disponibles pour ce conseil municipal. Nous avons les procurations de Raymond Repellini qui donne pouvoir à Mireille Papin, Christophe Talia qui donne pouvoir à Antoine Di Paolo et Claude Bruno qui donne pouvoir à Christine Gezins. En ce qui concerne nos autres élus absents, je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Donc le premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Avez-vous des questions par rapport à ce procès-verbal ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc le procès-verbal de la précédente réunion est approuvé à l'unanimité. Et je vous en remercie. Et je passe tout de suite la parole à Michel Bisaccia. Oui, pour les comptes de gestion 2022, communes et pompes funèbres. Non ? Oui ou... Vous avez le budget alors ? D'accord, tu fais ta présentation et après on formalisera
les... Je suis encore là. Non, ça va bien, moi. Donc bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc on va faire la présentation, il va peut-être falloir éteindre un peu. Bon, sur la première page, on n'y voit pas grand-chose. Donc rapidement, je vais vous expliquer, vous détailler un petit peu le compte administratif 2022 et le budget 2023. Comme d'habitude, vas-y, tu peux y aller Frédéric. Donc un contexte économique qui nous contraint à être toujours prudents. On en parle, on en a parlé plusieurs fois en réunion plénière, on en a parlé lorsqu'on a fait le débat d'orientation budgétaire. C'est vrai que le contexte économique, on était un petit peu sorti du Covid en disant qu'on allait retrouver une activité normale et le contexte économique ne nous a pas favorisé le budget. Donc les grands points qu'on a essayé de mettre... Au vu des résultats du compte administratif qu'on va étudier tout à l'heure, et avant de préparer le budget primitif, on pose toujours les mêmes principes, c'est-à-dire qu'on essaye de maîtriser les dépenses et d'optimiser, bien entendu, les recettes. Alors, maîtriser les dépenses, ça devient compliqué, je l'expliquerai un peu plus quand je vais faire les détails, mais bien entendu, avec la hausse de l'énergie, avec plein de choses comme ça, ça devient compliqué. On le dit toujours, mais une fois qu'on enlève le superflu, il y a un moment où on n'a plus que l'essentiel, et cet essentiel-là, ça va être de plus en plus compliqué de le maîtriser, et on voit bien, ne serait-ce que dans le budget des ménages, qu'effectivement, ça devient de plus en plus difficile. Et optimiser les recettes, donc on essaye aussi, mais c'est aussi également compliqué. Alors, on a augmenté notre excédent de fonctionnement, vous allez le voir après, mais bien entendu, le contexte incertain et contraignant nous oblige non pas à dire c'est très bien, on est très fort, on a augmenté l'excédent de fonctionnement. C'est satisfaisant, bien entendu, il vaut mieux ça que l'inverse, mais ça ne nous libère pas d'un poids à cause, effectivement, de ces éléments-là qui vont peut-être venir contrebalancer ce qu'on a pu faire de bien et d'un peu mieux que l'année dernière. Et puis cette année, bien entendu, en 2023, et on en a parlé plusieurs fois déjà, c'est l'année où on va commencer tous nos grands projets. Mais bien entendu, on va le faire de façon raisonnée. Vous verrez de la façon dans laquelle on a inscrit particulièrement l'extension et la rénovation de l'école Jules Ferry. Et prudente et responsable, bien entendu, avec la recherche de financement. Et ce sont essentiellement, bien entendu, les subventions, parce que plus on aura de subventions, et moins on aura de recours à l'emprunt à faire. Donc, effectivement, il faudra essayer d'aller chercher ce qu'on peut chercher le plus. Et puis aussi, pour la recherche de financement, l'emprunt, les subventions et, bien entendu, la vente de terrain, dont on a parlé aussi, qui, bien entendu, nous permettront d'avoir un budget qui sera plus large et plus... moins contraignant. Je trouve pas le mot, donc je dis l'inverse. Moins contraignant. Voilà. Alors, sur le compte administratif 2022, c'est-à-dire, ça je vous rappelle, le compte administratif, c'est le bilan de l'année N-1, c'est-à-dire fin 2022. On a arrêté les comptes et on a calculé ce qu'on avait dépensé, ce qu'on avait reçu, et on fait la différence qu'on appelle l'excédent. Donc, les dépenses, on voit qu'on en a pour 8 millions, on en a eu pour 8 907 800. Qui sont à peu près, c'est un petit peu en augmentation par rapport à l'année 2020, mais dans des proportions raisonnables. Et on voit bien entendu que les charges de personnel sont toujours, bien entendu, la plus grosse partie de nos dépenses de fonctionnement. Elles représentent encore 62%, sachant qu'on a déjà eu en juillet 2022 l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 3,5% sur 6 mois. Cette année, on va l'avoir sur l'année entière. Donc, forcément, ça a déjà bien augmenté la charge. Les charges générales sont de 21%, c'est à peu près stable par rapport à l'année dernière. Les charges financières sont peu élevées parce que jusqu'à maintenant, on avait des emprunts avec des taux qui étaient raisonnables. Et puis, on a des emprunts vieillissants, donc forcément, la part d'intérêt diminue. Les autres charges, c'est tout ce qu'on peut donner en participation aux SDIS, aux choses comme ça. Et voilà. Donc, on a une dépense de 8 907 000 et on a eu 11 244 000 652 de recettes. Et là, on voit aussi que la plus grosse partie de nos recettes, ce sont les contributions directes, c'est-à-dire bien entendu le résultat des impôts. Maintenant, il n'y a plus que la taxe foncière. Hein, donc voilà, 38% de notre budget, ce qui est quand même encore important, mais qui est pas non plus, ça représente pas, c'est loin de couvrir les charges de personnel. Et bien entendu, pour 22%, les attributions de compensation que Saint-Étienne Métropole nous verse régulièrement. Il n'y a pas eu de modification là-dessus, on l'avait vu lors du débat d'orientation budgétaire, parce que pour l'instant, il n'y a pas de transfert de compétences, donc notre attribution de compensation ne diminue pas. On a la vente des produits et services, celle-là où on retrouve tous nos participations des parents et des usagers à tous les services que l'on propose, hein, la crèche, le centre de loisirs, la médiathèque, pas tout ça. On a les autres taxes qu'on touche pour 5%. Les dotations et participations, ça c'est des taxes, des dotations qu'on touche de la part d'autres organismes que Saint-Étienne Métropole. Les produits exceptionnels. Et on a quand même 16% d'excédents reportés, ce qui est quand même intéressant. L'idéal, ça serait qu'on arrive à 25%, mais il y a des périodes où on était à 7 ou 8% d'excédents reportés de la totalité de nos recettes, ce qui était loin d'être suffisant. Donc, on a un excédent de 2 336 853, sachant qu'en 2021, on avait 2 169 000. Donc, vous voyez, on a quand même augmenté, mais pas dans une proportion énorme. Et je vous rappelle que sur cet excédent-là, on doit dégager, on doit forcément couvrir la part en capital de nos emprunts, puisque je vous rappelle qu'on paye les intérêts en fonctionnement, le capital en investissement. Or, on paye à l'heure actuelle chaque année 850 000 euros de remboursement d'emprunt. Donc, vous voyez, les 2 336 000, ça représente à peu près 3 années de remboursement d'emprunt. Donc, ce n'est pas non plus, si une année on a beaucoup moins d'excédents, on va vite grignoter notre excédent de fonctionnement. Voilà. Donc, un bon résultat, mais il faut quand même être toujours prudent. Et on va voir un petit peu des détails. J'ai détaillé quelques slides, enfin quelques charges. Si on veut passer à la... Ah oui, l'investissement d'abord, pardon. Alors, en investissement, on a dépensé 1 412 953. Essentiellement, là où aussi vous voyez 60% de remboursement d'emprunt, ce qui est aussi important sur le montant des dépenses. Alors, c'est important, mais pourquoi ça représente 60%? C'est parce que l'année dernière, on n'a pas dépensé grand-chose en investissement. Donc forcément, les 850 000 euros, ça représente une grosse part. Mais parce qu'on a été prudent l'année dernière sur les investissements, en sachant que cette année, on allait démarrer nos grands projets. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait l'an dernier. Donc forcément, c'est mathématique, hein. Moins on a de sommes, et plus les 850 000 euros représentent un pourcentage important, hein. On a fait des études et logiciels pour 2%. Les subventions d'équipement, 16%. C'est ce qu'on paye au ciel. Vous savez, toutes les délibérations qu'on passe régulièrement, où le ciel nous aide à faire des travaux d'enfouissement sur telle ou telle rue ou sur telle ou telle partie de la voirie. Ces subventions, on les rembourse soit en une fois, soit en plusieurs années quand elles sont importantes. Et c'est essentiellement ce qu'on rembourse en subventions d'équipement. On a acheté pour 12% de matériel. On a fait des travaux de bâtiment pour peu, sauf que je ne vois pas le pourcentage, 4%. On a fait des travaux en régie pour 4%. Alors, les travaux en régie, je vous rappelle, c'est les travaux que nos agents effectuent, c'est-à-dire, par exemple, tous les vestiaires de la Bargette. Tout ça, ça a été fait par nos agents communaux. Donc, on trouve essentiellement les matériaux, voilà, tout ce qui leur sert à faire le, ça. Les travaux en régie, on les retrouve, on valorise aussi leur salaire. Et on a touché 1 767 216, donc essentiellement là aussi de l'emprunt, mais aussi des dotations. Alors la dotation et taxe d'aménagement pour 28%, ça c'est la taxe d'aménagement. Vous savez, chaque fois que quelqu'un dépose un permis de construire, il paye une taxe d'aménagement. Et maintenant, c'est Saint-Étienne Métropole qui touche la taxe d'aménagement, mais qui nous en reverse 90%. Et les 10% restants de la taxe d'aménagement tombent dans l'enveloppe voirie, dans un pot commun d'enveloppe de voirie qui nous est redistribué après pour faire des travaux. Les 1% pour cession de matériel, vous savez que maintenant on est abonné à Web Enchères et mine de rien, ben, on vend de temps en temps du petit matériel et ça nous fait une petite somme. C'est aussi bien que quand on le donnait ou qu'on le mettait à la benne. Les amortissements des immobilisations, ça ce sont des opérations d'ordre. Vous savez que le matériel, tous les travaux, les achats de matériel s'amortissent. Ça dépend en nombre d'années différentes selon la forme des travaux. Mais ça, c'est les amortissements. Et l'excédent d'investissement reporté pour 2%. Donc, on a un excédent d'investissement de 350 263 euros. Ce qui est intéressant aussi parce que en investissement, on peut très facilement... Autant en fonctionnement, on ne doit pas avoir de déficit. Autant en investissement, on peut en avoir un. Puisque vous savez que souvent, les opérations se font sur plusieurs années. Donc, on peut avoir des années où on a beaucoup dépensé sur une opération et on n'a pas forcément touché les subventions qui allaient en face parce qu'il faut que les travaux soient terminés ou tout. Donc, on peut avoir un décalage entre les dépenses et les recettes. Ça n'a pas été le cas en 2022, tant mieux. Voilà. Donc, globalement, entre l'investissement et le fonctionnement, des résultats positifs, des résultats satisfaisants, mais bien entendu, on préférerait qu'ils soient encore plus importants, mais encore une fois, notre structure de fonctionnement et nos charges de personnel nous empêchent souvent de dégager suffisamment d'excédents pour pouvoir investir un peu plus. Voilà, donc j'ai fait quelques analyses détaillées sur certains points, mais je vais les évoquer très vite, hein, parce qu'on en a déjà souvent beaucoup parlé. Donc les charges de fonctionnement, on voit donc l'évolution sur 2022. Et bien entendu, donc on a fait une augmentation de 2,77% en 2022. Vous savez que l'État nous conseille très fortement aux communes de ne pas faire des dépenses de charges de ne pas faire des augmentations de charges supérieures à 3%. Donc on est encore dans les clous. Forcément, bah, ça a augmenté, hein, puisque aussi on a la reprise de toutes les activités. Donc qui dit activité, ben dit aussi des charges pour faire fonctionner. Quand on avait fermé pendant 2 mois les bâtiments, on les chauffait pas, on les éclairait pas. Donc forcément, les creux qu'on voit en 2020 et 2021 sont bien entendu dus à ça, hein. Donc on a repris une activité normale et c'est très bien, mais les charges suivent aussi. Et on voit quand même qu'on maîtrise quand même les dépenses puisqu'on est quand même encore largement, on est encore en dessous de la plus mauvaise année qu'on ait eue au point de vue financier qui était 2017 où on était monté quand même à 9 166 000 de charges de fonctionnement, ce qui était important. Sur les charges générales, donc fourniture, électricité, bah c'est pareil, hein, c'est ce que je vous expliquais. On voit bien le creux de 2020 et 2021 et une remontée sur les charges générales. Et c'est là où on va être prudent parce que vous savez que l'énergie augmente énormément. Donc sur le gaz, on est un peu tranquille sur l'année de on a été tranquille sur l'année 2022. On verra sur le budget 2023. Le gaz, ça augmentera pas parce qu'on a un contrat bloqué jusqu'en juin 2024. Mais sur 2023, on sera obligé, bien entendu, d'impacter la hausse de l'électricité qui a été à peu près calculée par le ciel et qui serait, on a mis au moins 100 000 euros de plus d'électricité sur nos bâtiments communaux. Voilà. En souhaitant que ça augmente pas plus et en souhaitant que ça dure surtout pas trop longtemps. Voilà, sur les charges générales. Sur les charges de personnel, eh ben, on augmente aussi un petit peu, hein, forcément. Pourquoi ? Bah parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'impact des mesures gouvernementales, parce qu'on a eu effectivement l'augmentation du point d'indice, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la revalorisation des plus bas indices de la fonction publique, puisqu'on avait des indices qui étaient inférieurs au SMIC, donc les plus bas indices de la fonction publique ont été relevés. On a des augmentations de taux de cotisation et tout ça fait qu'effectivement, les charges de personnel augmentent. Et puis, on a repris nos activités. Donc, par exemple, en 2020 et 2021, tout ce qui était personnel non titulaire, comme par exemple les animateurs pour le pôle enfant-jeunesse, des choses comme ça, on ne les a pas eu puisqu'on n'a pas eu d'activité. Donc là, on a repris les activités, on a repris le personnel. Mais il faut quand même, et moi je voudrais insister là-dessus, se rendre compte qu'effectivement on est à presque 5,5 millions de personnel, sachant qu'on mène depuis au moins 4 ans, si ce n'est pas plus, au moins depuis qu'on est arrivé, depuis 3 ans, une politique de non-remplacement de poste à poste. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'en va, on récupère soit un demi-poste, soit un quart de poste, on essaye un petit peu de baisser, de redistribuer le travail différemment, d'essayer de baisser les charges. Et on se rend compte que malgré ça, on a quand même augmenté les charges de personnel. Donc moi, la question que je pose, c'est que si on n'avait pas fait ça, on serait à combien, à l'heure actuelle, de charges de personnel? Parce que si on impacte, par exemple, sur les 5,6 millions où on était en 2018, si on impacte les mêmes augmentations qu'on voit, et on serait certainement, je pense, à pratiquement 6 millions d'euros de charges de personnel. Donc effectivement, c'est quand même bien d'avoir fait ça. Voilà. Sur les recettes, vous voyez, elles ont augmenté aussi, mais pas de façon très... Alors, ça paraît important parce que l'échelle est petite, mais on a quand même peu d'augmentation. Et effectivement, l'augmentation est due en grande partie à la hausse du taux de taxe foncière. Mais je vous en parlerai justement sur le slide d'après. Voilà, on voit les recettes fiscales qui ont augmenté. Elles représentaient, vous voyez, en 2017, 37% de nos recettes de fonctionnement. On a pris 10% en 2022. Enfin, graduellement, mais on est arrivé à 10%. Et bien entendu, ça, c'est la hausse du taux de taxe foncière. C'est exponentiel parce que vous augmentez une année. Donc, vous avez un produit qui est supérieur. Quand vous réaugmentez l'année prochaine, vous réaugmentez sur le produit supérieur. Donc, forcément... qu'on a fait 3 années d'augmentation de taxes foncières, ça nous a apporté une somme qui est intéressante. Alors on a pris la décision, on en a discuté en commission finance aussi, cette année de ne pas toucher au taux de taxes foncières, parce que déjà on commence à être un taux qui commence à être largement dans la norme et même dans la norme supérieure. On est dans une période où c'est compliqué pour tout le monde. On voit bien que les ménages subissent de plein fouet toutes ces augmentations. Et puis surtout, alors il va y avoir quand même une mauvaise surprise, mais ça nous impacte. C'est pas nous directement. Mais vous savez que l'impôt que vous payez, il est basé... Enfin, on prend une base fiscale, c'est-à-dire ce que vaut votre maison, la valeur locative de votre maison, de votre appartement. Et sur cette base fiscale, qui est fixée par les services fiscaux, on y applique un taux. Et ce taux, c'est nous qui choisissons. Donc cette année, on ne va pas augmenter le taux. Mais par contre, les bases fiscales, elles sont calculées sur l'inflation. Donc cette année, où d'habitude, les bases fiscales augmentent entre 3 et 4%, cette année, normalement, c'est 7,4% qu'elles vont augmenter. Donc déjà, mathématiquement, sans qu'on touche au taux, les impôts vont augmenter. Donc on aura, nous, une recette fiscale supplémentaire. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de ne pas rajouter une couche et de ne pas... augmenter encore notre taux fiscal. On verra les autres années si les bases ne sont pas suffisantes.
Une petite info hors PV. En ce qui concerne la base, donc la valeur locative qui permet le calcul de la taxe foncière, je vous invite à vous rendre sur impôts.gouv où vous faites votre déclaration d'impôt. Vous avez un nouveau fichier qui reprend votre patrimoine foncier. Il vous est demandé d'aller le voir et de valider ou de l'actualiser si vous avez rajouté une piscine, un parking pour 4 voitures, etc. Parce que c'est à partir de ce patrimoine foncier que vous êtes censé valider. Si vous ne faites rien, ils considéreront que vous l'avez validé, que vont être calculées sans doute demain la base des taxes foncières.
Voilà. Alors après, il y a les recettes, les ventes de produits et services. Donc là, on revient, je ne peux pas redétailler, les bases des recettes qui avaient été liées au contexte sanitaire. Et on a repris les activités et on est en train d'essayer aussi, toujours pareil, de rééquilibrer les tarifs. En septembre, en juillet l'année dernière, on a augmenté les tarifs de la cantine pour septembre. Les tarifs de la bibliothèque, de la médiathèque, on les augmente aussi. On augmente les tarifs, certainement, du pôle enfant-jeunesse, de façon à équilibrer, comme je dis toujours, entre le contribuable et les usagers. Voilà, de façon à ce que les usagers payent un peu plus les services dont ils profitent. Là, on a une amélioration des excédents de fonctionnement, hein, bien sûr, qui sont importantes. Et là, on voit le pourcentage par rapport à notre budget, le niveau des excédents de fonctionnement. Et on voit que depuis 2020, on est passé au-dessus de... On oscille entre 20, 21, 22, mais on voit que c'est satisfaisant et c'est bien meilleur que ce qu'on pouvait avoir avant, puisqu'on était à 12 ou 14%. L'idéal, ce serait d'arriver à 25%. Mais bon, on n'y est pas et on verra si un jour on y arrive, mais... C'est toujours compliqué par rapport à notre. Par exemple, moi, je vais vous dire, par exemple, sur le pourcentage des excédents de fonctionnement, normalement, pour une commune de notre stade, on devrait être à 224 euros par habitant. Et nous, on est à 178. Donc, vous voyez, on est encore en dessous de ce qui serait confortable pour nos excédents de fonctionnement. Voilà pour le compte administratif. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc, on va passer au budget primitif. Donc, le budget primitif, on est sur un montant de dépenses et de recettes de 10 239 653. Voilà, donc encore un petit peu en augmentation. Mais je vous rappelle que le budget est un document de prévision, c'est-à-dire... Ce n'est pas ce qu'on va avoir à la fin de l'année en compte administratif. On sait qu'on ne va pas dépenser tout ça. Ou alors, c'est vraiment qu'il y a un souci. Toujours, et on a une chef comptable pour ça qui est très, très rigoureuse là-dessus, et je le dis chaque année et je l'en remercie, on a toujours tendance à augmenter les prévisions de recettes et de dépenses, et à minimiser les prévisions de recettes. Comme ça, ça nous permet en fin d'année d'avoir des recettes peut-être supplémentaires. Et les dépenses, on n'aura pas tout dépensé parce qu'on aura été relativement prudent et confortable sur le montant des dépenses. Voilà. Donc, sur notre budget primitif 2023, on retrouve les charges de personnel qui ont baissé à 57%. Alors, ce n'est pas qu'on a beaucoup diminué de personnel, un petit peu, mais pas beaucoup. C'est simplement parce qu'on a augmenté les autres charges. Comme on augmente les autres charges, forcément, mathématiquement, la part de charges de personnel semble moins importante. Comme on a augmenté les charges générales, forcément, le pourcentage de charges de personnel diminue. Mais si vous avez regardé un peu les documents, là, je ne vous ai pas fait les tableaux avec les chiffres cette année parce que je pense que ça ne sert à rien. Ça fait beaucoup trop d'informations et beaucoup trop de chiffres. Mais si vous regardez, vous verrez qu'on a à peu près, on a encore un petit peu prévu un peu plus large pour le personnel. Donc, ce n'est pas qu'on a diminué les charges de personnel, c'est qu'on a augmenté les autres. Donc, on a augmenté un peu les charges générales. C'est là où on retrouve les 100 000 euros de plus sur le budget. Les dépenses, les autres charges pour 9%. Les charges financières, vous voyez, elles sont pareilles. Les opérations d'ordre, ça, de toute façon, c'est toujours à peu près pareil. Et puis, si c'est plus important, ça s'équilibre en recettes. C'est pas à prendre dans les dépenses d'investissement courantes. Et vous voyez qu'on a les dépenses imprévues pour 6%. Toutes les années, on a un compte qui s'appelle dépenses imprévues, qui est plafonné, on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut dedans. Mais nous, on y met à peu près 600 000 euros chaque année. Ça nous permet que ce soit notre cagnotte au cas où il y ait vraiment un souci majeur, une tornade, enfin je ne sais pas, quelque chose qui nous oblige à sortir de l'argent très très vite et de façon très urgente. Normalement, on n'y touche pas, mais je ne sais pas si vous avez vu quand même, sur l'année 2022, on n'a eu que 300 000 euros d'excédent de fonctionnement, si on ne comptait pas le cumul avec les autres années. On a eu un peu plus de 300 000 euros. Ce qui veut dire que ça ne veut pas dire qu'on a dépensé forcément nos 600 000 euros, mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas eu forcément beaucoup plus de recettes que ce qu'on avait estimé. Donc, vous voyez, sur les 600 000 des dépenses imprévues, on en a quand même mangé 300 000 en 2022. Donc, il faut être là aussi. Ça prouve qu'il faut quand même continuer à être très prudent. Sur les recettes, ce sont les contributions directes pour 39%. On a fait des simulations avec 7% d'augmentation de la base fiscale. À mon avis, ça sera un petit peu plus, mais c'est pareil, on préfère être prudent. L'attribution de compensation de SEM n'a pas changé. La vente des produits et services, c'est toujours pareil. On retrouve notre excédent reporté. Vous voyez, pour 23%, il était à 22%, si je me rappelle bien, pour 2022. Voilà, donc on n'a pas les dotations participation, les autres taxes. C'est toujours à peu près la même configuration de camembert. On retrouve toujours à peu près les camemberts les plus importants et les autres qui permettent d'équilibrer notre budget. Voilà. Alors, sur les investissements, c'est là où cette année, ça va quand même changer beaucoup. Parce que effectivement, alors on va poursuivre les investissements courants. Hein. Une commune ne peut pas tout mettre ses travaux, enfin son budget d'investissement uniquement sur une opération. On dit on met tout sur Jules Ferry et on fait rien d'autre. C'est pas possible puisqu'il y a quand même toujours des travaux de voirie. Par exemple, avec Saint-Étienne Métropole, on va faire le chemin des Bières. Il y a toujours des travaux sur les bâtiments, hein, parce qu'on continue quand même à entretenir nos autres bâtiments. On a toujours un peu de peinture à faire, un escalier à revoir, enfin des choses comme ça. Et on achète toujours du matériel et du mobilier, parce qu'on a de la casse, parce que le matériel, on a besoin de quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc on a limité au maximum, hein, on a donné des budgets aux services qui sont très serrés sur ce genre de choses. Mais on ne peut pas mettre un budget d'investissement courant. Et effectivement, en 2023, on va avoir les premiers investissements de notre plan pluriannuel, hein, c'est-à-dire la poursuite du projet d'aménagement du centre-bourg avec la finalisation des acquisitions de l'îlot 2, puisque là, monsieur le maire vous l'a expliqué, c'est tout vendu. Enfin, Epora a tout acheté. Et donc, normalement, en fin 2023, Epora sera propriétaire de la totalité du patrimoine. Elle est déjà propriétaire de la totalité du foncier, mais il y a toujours le problème de fin d'activité du bar tabac. Voilà. On va bien entendu lancer les travaux de rénovation et d'extension de l'école du Ferry. Ça, c'est la plus grosse opération, bien entendu. Et on a aussi parlé, on va aussi lancer notre poursuite d'installation de caméras de surveillance. Avec essentiellement cette année, c'est là où on va mettre pratiquement le plus d'argent, parce que c'est là où on va mettre le centre de surveillance et les premières implantations. Les deux autres années d'après, il y aura d'autres implantations. Mais le gros morceau, c'est quand même le centre de surveillance. Et si on le fait cette année, c'est parce qu'il y a des subventions. On n'est pas sûr qu'elles soient reconduites l'année prochaine. Donc, il est important qu'on débute les travaux sur 2023. Et bien entendu, on est en attente du retour de tous les dossiers de subventions qui ont été déposés, parce que pour l'instant, on n'a aucune réponse, parce que le budget n'est pas complètement finalisé tant qu'on n'a pas ouvert les plis et tant qu'on ne sait pas exactement le montant des travaux. Donc, le budget d'investissement a été bâti sur ces éléments-là. Et donc, voilà. Alors, vous voyez, on est quand même sur un budget qui fait 4 632 672 euros. Je pense que ça fait de nombreux. Enfin, moi, j'ai jamais vu un budget d'investissement de cette hauteur depuis que je suis élue. Pour vous rappeler, l'année dernière, on était sur 2 555 749. Donc, vous voyez, on a pratiquement mis 2 millions de plus d'investissements que les autres années, parce qu'effectivement, on commence nos opérations. Donc, sur les dépenses, on voit qu'on a 43% de dépenses sur Jules Ferry. Alors, sur Jules Ferry, on a fait ce qu'on appelle une autorisation de programme, c'est-à-dire que, normalement, quand vous engagez une opération en investissement, vous dites, je vais construire une cantine, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, elle coûte 1 million d'euros, il faut que vous engagiez 1 million d'euros. Là, on est sur des travaux à 4 500 000. Donc, on s'est dit, si on engage 4 500 000, je ne sais pas comment on va les financer. Parce qu'en face, il faut que vous mettiez les recettes. Or, pour l'instant, quand vous inscrivez des recettes, vous ne pouvez mettre que des recettes dont vous êtes sûr. C'est-à-dire un emprunt que vous êtes sûr d'avoir, vous avez un accord de banque que vous êtes obligé de joindre avec votre budget, un accord pour vous dire que vous allez avoir l'emprunt, et vous devez avoir les arrêtés de subvention pour être sûr d'avoir les subventions. Or, d'ici fin 2023, on n'aura peut-être pas tout ça, pas tout au moins, pas toutes les subventions. Donc, on a demandé l'autorisation de découper l'opération de Jules Ferry en plusieurs exercices. C'est-à-dire qu'on a inscrit cette année 2,4 millions, et on inscrira l'année prochaine les 2,4 millions à peu près 2,3 millions qui nous manqueront. Voilà. Comme ça, on est tranquille et on n'a pas besoin de surdimensionner nos recettes. Par exemple, de mettre un emprunt de 2 millions, au moins, parce que du coup, ça nous déséquilibre complètement le budget. Donc, on a mis les travaux de Jules Ferry pour 45%. On a mis, alors, études et logiciels, ça paraît très, très gros parce que les autres années, c'est à peu près à 4 ou 5%. Mais il faut savoir que dans études et logiciels, on a le paiement des honoraires de l'architecte. Ils ne sont pas dans les travaux de Jules Ferry, ils sont dans l'étude et logiciels. C'est pour ça que cette année, ça va être beaucoup plus gros que les autres années. On a des subventions d'équipement, toujours pareil, ce que je vous disais du ciel. Des acquisitions foncières et de matériel divers et des travaux de bâtiment. C'est ce que je vous disais, ce qu'on appelle les investissements courants. Mais vous voyez qu'on les a vraiment limités cette année à pas grand-chose. Et on a 17% de remboursement d'emprunt pour payer notre capital d'emprunt. Alors, comment on finance ça? Et c'est pour ça que j'ai fait un peu les camemberts, parce que c'est un peu faussé, parce qu'on a l'impression qu'on va payer tous les travaux de Jules Ferry par la subvention. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça, mais la seule subvention qu'on a pu inscrire dans la totalité, parce que celle-ci, on sait qu'on l'a, c'est celle du plan de relance métropolitain. On sait que de toute façon, Saint-Étienne Métropole va nous payer la moitié de notre reste à charge. Alors, on l'a un peu surdimensionné, parce que sur 4,5 millions, on a pensé qu'il nous resterait 2 millions. J'espère bien que ce ne sera pas le cas, parce que sinon, ça va. Hein, et que du coup, Saint-Étienne Métropole nous paiera 2 millions. Donc, on a mis la totalité de la subvention, le maximum que pourrait nous payer le plan de relance. Bien entendu, là, on a mis subvention au pluriel, parce que toutes ces subventions-là, la subvention de Métropole diminuera au fur et à mesure qu'on aura les autres subventions. On aura les subventions du département, de l'Europe, de la région. Tout ça, ça, bien entendu, ça fera diminuer le plan de relance. Mais la masse de subventions qu'on recevra, on est à peu près sûr d'avoir ça. Donc, on a les emprunts pour 24%. Donc, on n'a pas prévu trop d'emprunts, un peu plus que les autres années. On est à 1 million, je crois, 1 million 100. Parce qu'il nous reste 600 000 euros de l'année dernière et on a prévu 500 000 pour l'instant pour cette année. On retrouve notre excédent d'investissement et nos amortissements des immobilisations. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire sur le budget d'investissement, je crois qu'on a fini. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le budget? Oui.
Est-ce que dans les études des logiciels, il y a les études de Georges Sand?
Non, je crois qu'on ne l'a pas inscrit encore. Non, parce que là aussi, ce que je ne vous ai pas précisé, mais que je peux vous dire, c'est que c'est un premier budget. D'habitude, vous voyez, les autres années, on fait un budget primitif. Et puis, au cours de l'année, en principe en juin et puis surtout en novembre, on demande des décisions on fait passer au Conseil des décisions modificatives pour ajuster les comptes parce qu'on a un peu plus dépensé en bâtiment et un peu moins en travaux. Donc, on ajuste. Et en fonctionnement, c'est pareil. Là, c'est un premier jet de budget parce que du fait qu'on n'a pas la visibilité sur les subventions, il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc, on a minimisé toutes les dépenses, mais au fur et à mesure de ce qu'on pourra avoir et de la certitude qu'on pourra avoir sur nos gros travaux, il se dégagera des sommes et qu'on mettra peut-être sur l'école d'études Jules Ferry. C'est pareil sur la vidéosurveillance, on n'a pas mis la totalité de la somme que va nous coûter le centre de traitement, le centre d'observation, parce que ça déséquilibrerait trop le budget. Mais ça se fera certainement en cours d'année. Voilà. D'autres questions? Alors, je retourne à ma place. Ah, Rémi.
Oui, Rémi Mounier. On voit donc l'excédent sorti toutes les années avec le capital d'emprunt à payer dans la logique des travaux de Jules Ferry. Donc, il va y avoir une partie qui va être empruntée. Donc, il va venir augmenter significativement ce capital d'emprunt à rembourser toutes les années. On voit qu'aujourd'hui, la marge est de plus en plus réduite. Y a-t-il pas une probable impasse Est-ce qu'on va pouvoir éviter une impasse par rapport à justement cet excédent de fonctionnement et ce capital d'emprunt qui va augmenter significativement avec les. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'impasse dans les prochaines années?
C'est pour ça que, en fait, il faut vraiment optimiser les autres recettes, c'est-à-dire les subventions et puis surtout les ventes foncières. Parce que si on a des ventes de terrains fonciers, on n'aura pas besoin d'emprunter beaucoup plus que ça nous fera des recettes propres, en fait. Ça nous fera un autofinancement. En fait, il faut arriver à augmenter l'autofinancement pour qu'effectivement la part d'emprunt soit de plus en plus enfin, au moins qu'elle n'augmente pas effectivement de façon dramatique. Il y a un moment où ça, effectivement, ça peut arriver hein, si on emprunte trop. De toute façon, il y a des signaux d'alerte avant et les banques arrêtent de prêter avant qu'on en soit là. Hein. Mais c'est ce qui nous est arrivé il y a 2 ans quand les banques nous ont dit non, vos indicateurs sont pas bons, on arrête. Du coup, on avait arrêté d'investir. Mais ce qui est important, effectivement, et ce qui nous permet, nous, d'envisager ces gros travaux-là, c'est la possibilité de vendre à la fois le terrain du lycée qui risque de nous rapporter beaucoup, et puis Jean Massé surtout. Voilà. Parce que Jules Ferry sera en grande partie financé par la vente de Jean Massé.
Oui, donc cette année, on a prévu au budget initial hein, 1,1 million d'emprunts. En fait, c'est 500 000 euros d'emprunts 2022 qu'on n'a pas tirés, mais qu'on a. La banque nous les a prêtés. On a jusqu'au mois de juin, je crois, Frédéric, ou jusqu'au mois de mai pour les tirer. Et 600 000 euros de plus au titre de l'année 2023 qu'on n'a pas encore été négocié. Donc ça fera 1,1 million de recours à l'emprunt. Alors effectivement, après Il y a deux options. Soit on a un retour rapide des subventions qui vont nous permettre de savoir exactement ce qu'on va avoir, en particulier sur Juif Ferry, en reste à charge. Et donc ce reste à charge sera divisé par deux, moitié pour nous, moitié pour Saint-Étienne Métropole. Je vous rappelle que le Conseil métropolitain de jeudi dernier a confirmé que le recours au plan de relance était reporté jusqu'au 30 juin 2024. Donc on a 6 mois de plus, ce n'est pas neutre. Après, en cas de problème à un instant T, alors il faut dissocier le budget de la trésorerie. Hein, on peut toujours avoir recours à un emprunt qu'on appellerait, pour un particulier, un prêt relais. Il y a des banques qui nous l'ont dit, et en particulier quand on a parlé d'Epora, on l'a pas, là, la reprise, le rachat d'Epora, si ce n'est que, comme Michel disait, sur l'îlot 2, ils ont tout acheté, et le bail du bar tabac Dos Santos, ça y est, ils ont envoyé la résiliation du bail au 31 décembre. Donc au 31 décembre, le bail est résilié. Donc fin 2023, Epora est propriétaire de l'intégralité, on en reparlera et on l'a déjà dit. Donc la banque nous l'a dit. On sait qu'avec Epora, il y a un décalage de 3 à 4 ans entre le moment où ils vous présentent la facture et le moment où vous pouvez payer. On peut tout à fait mettre en place un prêt relais. Au cours de ces 3 ou 4 ans, vous revendez le terrain. Le prix de cession viendra en diminution de ce que vous devrez à Epora. Et au bout des 3 ans, vous soldez la dette auprès d'Epora. Donc il y a des montages qui sont envisagés. Après, il faut être prudent, évidemment. Si on n'avait pas derrière nous et le terrain du lycée, avec quelques incertitudes, mais surtout le terrain de Jean Massé, on ne serait pas dans la même logique.
C'est bon.
Technologie
l'ordre du jour.
De l'ordre du jour. Donc l'approbation des comptes 2022, communes et services des pompes funèbres.
Voilà, donc vous avez en première délibération effectivement l'approbation du compte administratif. Non, alors attendez, je suis en train de confondre là. J'ai pas. Non, j'ai pas j'ai le tableau, mais il est là. Pardon, la délibération pour l'approbation des comptes de gestion. Donc on va vous demander d'approuver les comptes de gestion 2022 de la commune de Saint-Prié-en-Jarret et du service des pompes funèbres qui sont dressés par le comptable public du 1er janvier au 31 décembre et qui sont bien entendu conformes aux comptes administratifs soumis au vote. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, la comptabilité publique dans une commune est tenue en double part, comme une comptabilité privée, sauf que nous, on ne tient que notre comptabilité communale et le trésor public tient une autre comptabilité. Et en fin d'année, bien entendu, quand on arrête les comptes, on se contacte avec les services fiscaux et en principe, on doit avoir les mêmes chiffres. Hein, sinon, il y a un souci. Alors, ça peut arriver qu'on ait des petits ajustements parce qu'ils ont pu se tromper ou nous de compte sur une ou deux factures, mais ça se retrouve très vite. Et effectivement, si vous prenez le détail du compte de gestion que vous avez, vous vous rendez bien compte qu'on retrouve effectivement les deux chiffres que je vous ai donnés, c'est-à-dire 2 336 852,89 € d'excédent de fonctionnement et 890 081,55 € d'excédent d'investissement. Voilà. Et puis, bon, vous avez les pompes funèbres. Ça, on n'en a pas parlé. J'ai pas parlé du budget des pompes funèbres, mais on le retrouve après. Vous avez un excédent d'investissement de 2 336,82 € et un excédent de fonctionnement de 1 175,13 €. On n'est plus dans les mêmes proportions. Voilà, donc on vous demande d'approuver ce compte de gestion.
Donc vous avez été destinataire de la liasse comptable. Elle est considérable. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages où il n'y a rien, mais c'est un document qui est imposé. Donc s'il n'y a rien, il y a zéro, effectivement. Si vous êtes un petit moment, allez jeter quand même des coups d'œil dans certaines rubriques. Par exemple, vous avez tous les emprunts en cours. Vous avez tous les prêts qu'on a cautionnés auprès des bailleurs sociaux. Vous avez tout un ensemble d'éléments comme ça qui sont très intéressants par rapport à des questions qu'on peut se poser comme ça au quotidien. Donc je vous demande d'approuver les comptes de gestion 2022 de la commune de Saint-Prié-en-Jarret et du service des pompes funèbres dressés par le comptable public du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et conformes aux comptes administratifs soumis au vote. Les comptes de gestion seront consultables en mairie, évidemment. Et pour, donc, les comptes sont approuvés à l'unanimité. Je vous en remercie.
Donc maintenant, bah, je vais vous faire voter le compte administratif. Mais du coup, je vais faire sortir monsieur le maire. Non, il y a d'abord le compte administratif. Alors, c'est la règle, hein, le compte administratif est sous l'entière responsabilité de monsieur le maire, et donc monsieur le maire ne peut pas voter le compte administratif. C'est le conseil municipal qui approuve la gestion de monsieur le maire. Voilà. Donc, sous la présidence de madame Bizassia, moi-même, adjointe chargée de la préparation des documents budgétaires, le conseil municipal va examiner le compte administratif 2022, donc ce que je vous ai exposé tout à l'heure, qui s'établit ainsi. Alors, par contre, il faut qu'on vote section par section. Il faut d'abord qu'on vote la section de fonctionnement, puis la section d'investissement, et pareil pour le service des pompes funèbres. Donc, pour la commune, section de fonctionnement, on a donc 8 907 799,52 € de dépenses pour 11 244 652,41 € de recettes. Donc, on a bien l'excédent de clôture dont je vous ai parlé tout à l'heure de 2 336 852,89 €. Donc, je vous demande d'approuver ce compte de gestion. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Pour la section d'investissement, on a 1 431 021,06 € de dépenses pour 2 321 102,61 € de recettes. Donc, on a un excédent de clôture de 890 081,55 €. Qu'il faut quand même un petit peu pondérer parce que vous savez, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, que les dépenses d'investissement se passent sur plusieurs années. Donc en fin d'année N-1, on prend ce qu'on avait prévu, on prend ce qu'on a dépensé, et autant en fonctionnement, boum, on arrête tout, on met les comptes à zéro, autant en investissement, ce qui reste apparaît en reste à réaliser, c'est-à-dire des sommes qu'on a déjà votées mais qui vont se reporter sur l'année N. Donc, pour l'investissement 2022, on a un solde reste à réaliser de 330 422,83 €. Donc, le véritable excédent d'investissement, il est l'excédent de financement, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire notre autofinancement, il s'élève à 559 658,72 €. Voilà. Donc, je vais vous demander d'approuver la section d'investissement avec les chiffres que je viens de vous donner. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Alors, pour le service des pompes funèbres, alors c'est des sommes beaucoup moins importantes. Alors, je vous rappelle, le service des pompes, le budget des pompes funèbres, le compte administratif et le budget, ce sont des comptes de stock. C'est-à-dire qu'on compte la valeur des caveaux qu'on possède et la valeur des caveaux qu'on a vendus et ce qu'on a vendu. Et en fait, c'est la différence. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment c'est à la marge. C'est-à-dire qu'on a des années où on aura un excédent parce qu'on aura vendu plus de caveaux qu'on en aura construit. Et il y a des années où on décide, par exemple, de construire 15 caveaux. On n'en vend que 2 dans l'année. Forcément, on va avoir un déficit puisqu'on va avoir un compte de stock qui va être important. Voilà. Donc, pour la section d'exploitation en dépenses pour le budget de pompes funèbres, on a 18 719,52 €. Vous voyez, c'est des sommes qui n'ont rien à voir avec les budgets précédents. Et des recettes pour 19 894,65 €, soit un excédent de clôture de 1 175,13 €. Donc, je vais vous demander d'approuver dans la section d'exploitation du service des pompes funèbres. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Et pour la section d'investissement, on a eu 21 031,32 € de dépenses pour 23 368,14 € de recettes, donc un excédent de clôture de 2 336,82 €. Donc, je vais vous demander de bien vouloir approuver ce compte-là pour l'investissement et pour le service des pompes funèbres. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous en remercie. Et on peut rappeler monsieur le maire. Christian? Deux comptes administratifs ont été adoptés à l'unanimité. l'évaluation du résultat des taux d'imposition. Tu peux me donner. Du résultat, oui. Donc là, maintenant qu'on a voté donc le compte administratif, on a vu les excédents hein, qu'on avait en investissement. Ben, cet excédent, il faut l'affecter à quelque part. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait cette année ? Parce qu'on a plusieurs solutions. Quand on a un excédent, on a une règle en comptabilité publique, c'est que si on est déjà au minimum obligé, si on n'a pas d'excédent d'investissement, de reporter le montant du capital, de financer le capital de l'emprunt par l'excédent de fonctionnement. Comme on voit que cette année, on a eu un excédent d'investissement aussi, on n'est pas obligé de faire ça, puisqu'effectivement, notre excédent d'investissement, qui est de 890 181, couvre notre capital de l'emprunt. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait des résultats ? Donc la délibération vous l'explique. Donc, monsieur le maire expose, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M14, donc après avoir approuvé le compte administratif 2022 qui présente un excédent de fonctionnement, vous allez finir par connaître le chiffre par cœur, de 2 336 852,89 €, constatant que la section d'investissement du dit compte administratif fait apparaître le solde d'exécution de 890 181,55 €, donc suffisant pour combler notre capital. Constatant que le solde des restes à réaliser se porte à -330 422,83 €, mais on garde quand même la totalité du résultat de fonctionnement, parce que vous verrez que cette somme de 330 000, on la remet dans le budget primitif, donc on n'enlève pas notre excédent. Donc, on a donc un solde d'exécution global de 890 181,55 € moins le solde reste à réaliser de 330 422,83 €, ce qu'on a un excédent d'investissement de 559 758,72 €. Voilà. Conformément à l'instruction M14, il conviendrait d'affecter l'excédent de fonctionnement de 2022, qui est donc de 2 336 852,89 €, comme suit. Donc en fait, c'est bien simple, en 2023, on va garder nos excédents là où ils sont. C'est-à-dire qu'on va garder l'excédent de fonctionnement en fonctionnement et l'excédent d'investissement en investissement. Donc on reporte au fonctionnement, au compte 002 recettes, 2 336 852,89 €, et on reporte à l'investissement 001 recettes l'excédent d'investissement reporté pour 890 181,55 €. Et pourquoi on fait ça ? Pourquoi on ne dit pas qu'on bascule, par exemple, une partie de notre excédent de fonctionnement sur l'investissement, ce qui nous permettrait peut-être d'avoir moins d'emprunts sur par exemple l'opération Jules Ferry, tout simplement parce qu'en début d'année, enfin, on ne le fait pas tout de suite quand on n'en a pas besoin, parce que je vous rappelle la règle qui fait que quand on bascule des sommes de fonctionnement en investissement, elles ne peuvent pas faire l'inverse, elles ne reviennent jamais en investissement. Or, on ne sait pas cette année combien on va payer. On a mis 2,4 millions sur Jules Ferry, mais si ça se trouve, on ne paiera pas cette somme-là, parce qu'on ne va peut-être pas faire forcément tous les travaux, et il y a peut-être des travaux, on paiera peut-être plus en 2024 qu'en 2023. Donc ça ne sert à rien d'anticiper et de mettre des sommes pour l'instant, dont on ne sait pas si on va en avoir besoin, parce qu'après, elles ne reviendront pas, et elles vont nous manquer en fonctionnement. Voilà. Donc comme on n'a pas de règles, on n'a pas à couvrir le capital de l'emprunt, de façon très prudente, on garde notre excédent de fonctionnement en fonctionnement et forcément notre excédent d'investissement en investissement. Voilà.
Donc je vous demande de bien vouloir voter l'affectation des résultats 2022 tel que Michel Bisaccia vient de vous le présenter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc c'est validé à l'unanimité. Je vous en remercie.
Alors maintenant, on va voter les taux d'imposition. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, donc, il n'y a pas de modification par rapport à l'année dernière. Donc, monsieur le maire expose. Pour 2023, je vous propose d'établir les taux d'imposition comme suit. Taxe foncière bâtie, 38,50 %. Alors, je vous rappelle que dedans, il y a la part du conseil départemental maintenant. Ce n'est pas simplement le taux de la commune. La taxe foncière non bâtie pour 88,11 %. Et la taxe d'habitation pour 10,02 %. Celui-ci, de toute façon, on ne peut plus y toucher. Le produit fiscal estimé pour 2023 et inscrit au budget primitif est de 4 millions d'euros. Je vous demande de bien vouloir approuver les taux ci-dessus.
Une petite précision quand même sur le taux de taxe d'habitation à 10,02. Les autres années, on ne le reprenait pas. Et là, on a eu un signalement de la préfecture qui nous dit que sur donc le taxe d'habitation, résidence secondaire et logement vacant, si on ne prend pas de décision, ça sera considéré comme un taux nul. Il n'y aura pas de taxe d'habitation sur cette typologie de logement. Donc il est donc indispensable effectivement de le mentionner à la délibération. Donc je vous demande de bien vouloir valider ces éléments, donc les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2023, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc à l'unanimité, les taux d'imposition sont validés. Je vous en remercie. On passe au budget primitif 2023.
Alors, pour le budget primitif 2023, il y a d'abord une première délibération qui est en comptabilité l'avance remboursable du budget des pompes funèbres au budget principal. Alors, je vais vous lire la délibération. Je pense qu'elle est claire, mais avec quelques petites précisions. Monsieur le maire expose, le budget annexe des pompes funèbres est un budget qui utilise de manière obligatoire la comptabilité de stock, ce que je vous ai dit tout à l'heure, notamment au niveau du suivi dans la vente des caveaux modulaires. C'est la section d'investissement qui retrace la comptabilité en compte de classe 3. On constate un déficit d'investissement en période de stockage, lorsqu'il y a achat de caveaux. Ce déficit se résorbe en période de déstockage, lorsqu'il y a vente de caveaux. Il n'y a jamais d'excédent d'investissement pour ce type de budget. L'excédent de fonctionnement de ce budget retrace la plus-value réalisée le cas échéant lors de la vente des biens. Donc effectivement, si on a vendu plus de biens une année qu'on en a dépensé, on a un excédent. Comme dans toute comptabilité, la reprise des résultats est obligatoire. Donc normalement, on devrait faire c'est ce qu'on va faire, la reprise des résultats, chaque année au niveau des prévisions budgétaires, ce qui pose le problème des variations de stock d'une année sur l'autre. Afin de présenter un budget des pompes funèbres équilibré, il convient de prévoir une avance remboursable du budget des pompes funèbres au budget de la commune. Cette avance sera chaque année réajustée en fonction des achats et des ventes de caveaux modulaires de l'exercice précédent. C'est-à-dire qu'en fait, le budget des pompes funèbres n'a pas le droit d'avoir d'excédent d'investissement. Si on a un excédent, c'est le budget des pompes funèbres qui fait une avance au budget de la commune. Et l'année où ce sera l'inverse, où ce sera un déficit d'investissement parce qu'on aura trop, on aura construit plus de caveaux qu'on en aura vendu, ce sera la commune qui fera une avance. C'est la commune qui fera une avance au budget du pompe funèbre. Et tout ça, bien entendu, se rééquilibre d'une année sur l'autre. Donc, pour cette année, il vous est demandé d'inscrire les crédits suivants. Au budget primitif 2023 des pompes funèbres, une dépense d'investissement au compte 1687, remboursement autre dette d'un montant de 2336,82. Donc, c'est bien une dépense au budget des pompes funèbres. Et au budget primitif 2023 de la commune, une recette d'investissement au compte 276,38 créances d'autres établissements publics d'un montant de 2336,82 €. Alors ça, on l'a toujours fait, mais avant, on ne faisait pas de délibération. Et ça fait depuis l'année dernière que les trésors publics nous demandent de faire la même chose, mais avec une délibération.
Donc je vous demande de bien vouloir valider ce transfert donc de l'excédent des pompes funèbres au budget de la commune pour 2336,82 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est validé à l'unanimité et je vous en remercie. Point suivant, c'est le budget, donc l'autorisation de programme pluriannuel et crédit de paiement, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, extension et réhabilitation d'école Jules Ferry.
Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, qu'on avait demandé une autorisation de programme pour cette opération-là. Et donc, effectivement, pour que ce soit adopté, il faut aussi passer une délibération. Alors, monsieur le maire expose, un des principes des finances publiques repose sur l'annualité budgétaire. Pour engager les dépenses d'investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de la dépense la première année, puis reporter d'une année sur l'autre le solde, ce que je vous expliquais. Si par exemple, on aurait dû inscrire les 4,5 millions et reporter en 2024 ce qu'on n'aurait pas dépensé en 2023. La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement est une dérogation au principe de l'annualité budgétaire. Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier, mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d'engagement. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. En gros, ça nous permet de prévoir les sommes sur plusieurs exercices. Les autorisations de programme et crédits de paiement sont encadrées par des articles du Compte général des collectivités territoriales et du Code des juridictions financières. Les autorisations de programme, donc ce qu'on appelle AP, constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Et elles peuvent être révisées chaque année. C'est-à-dire que chaque année, nous, on a estimé le maximum de ce qu'on pouvait payer sur Jules Ferry. Chaque année, on va mettre, essentiellement, nous, sur 2023, 2024, mais peut-être sur 2025, s'il y a des extérieurs qui ne sont pas finis ou quelque chose comme ça. Et à la fin de l'opération, une fois qu'on peut annuler les sommes, s'il en reste, et on dit que le programme est définitivement fini, et l'autorisation de programme est terminée et enlevée du budget. Les crédits de paiement, donc ça, c'est ce qui nous permet de payer chaque année. Il y a l'autorisation de programme et les crédits de paiement, c'est-à-dire les sommes qu'on prévoit sur cette autorisation de programme. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme. Le budget de N, c'est-à-dire le budget de cette année, ne tient compte que des crédits qu'on paiera cette année. Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de paiement ainsi qu'une évaluation des ressources envisagées pour y faire face, les fonds de compensation de TVA, la subvention, l'autofinancement, l'emprunt. La somme des crédits de paiement doit être égale au montant d'autorisation de programme. Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées donc par le conseil municipal par délibération distincte lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. La délibération initiale fixe l'enveloppe de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de financement. Dès cette délibération, l'exécution peut commencer. Donc, dès qu'on aura voté ça, on pourra effectivement engager les travaux. Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l'année suivante par délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel des autorisations de programme crédits de paiement. Toutes les autres modifications, révisions, annulations, clôtures, doivent faire l'objet d'une délibération. C'est-à-dire que si on modifie en cours de programme les sommes, on est obligé, bien entendu, à chaque fois de passer une délibération, qu'on remette de l'argent ou qu'on en enlève. En début d'exercice budgétaire, les dépenses d'investissement rattachées à une autorisation de programme peuvent être liquidées et mandatées par le maire jusqu'au vote du budget, dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Et donc, il est proposé au conseil municipal, donc pour cette année, pour 2023, les autorisations de programme et les crédits de paiement suivants. Donc, nous, on n'a qu'une autorisation de programme 002, qui est l'extension et la réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry, pour un montant total de 4 834 341 euros. Ça, c'est ce qu'on prévoit de payer vraiment au grand maximum. Donc, on prévoit des crédits de paiement pour cette année pour 2 070 372,37 euros. Et des crédits de paiement pour l'année 2024 de 2 763 968,63 euros. Les dépenses seront financées par le fonds de compensation, les subventions, l'emprunt et l'autofinancement. L'autofinancement, c'est ce qu'on peut dégager de l'excédent de fonctionnement ou ce que je vous ai dit tout à l'heure, éventuellement les ventes de terrain. Monsieur le maire propose, vu les articles du code, je vous dis pas les numéros, du code général des collectivités territoriales portant définition des autorisations de programme et crédits de paiement, vu l'article du code des juridictions financières portant sur les modalités de liquidation et de mandatement avant le vote du budget, vu le décret du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement, vu l'instruction M14, d'ouvrir l'autorisation de programme et crédit de paiement tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessus et jusqu'à l'adoption du budget 2023, d'autoriser le maire à liquider et à mandater les dépenses correspondantes au crédit de paiement 2023 indiqué dans le tableau ci-dessus. Alors ça ne nous concerne pas parce que de toute façon, nous, on vote le budget en même temps. Mais on aurait pu voter, par exemple, ce tableau en janvier et du coup, on aurait pu commencer les travaux avant le vote du budget. Voilà.
Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie.
Alors maintenant, on va vous faire voter le budget primitif, tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure. Donc, monsieur le maire expose, vu le débat d'orientation budgétaire du 20 février 2023, vu la commission des finances, donc on a fait le 13 mars 2023, avec pas beaucoup de succès, mais on l'a fait quand même. Vu la proposition de budget primitif, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2023 arrêté comme suit. Donc pour le budget de la commune, dépenses et recettes de fonctionnement pour 10 239 653,25 euros et pour les dépenses et recettes d'investissement pour 4 635 671,14 €. Vous faire voter section par section. Ah oui. Alors je vous dis aussi les pompes funèbres et on votera tout après. Pour le service des pompes funèbres, donc dépenses et recettes d'exploitation 19 367,70 €, et pour les dépenses et recettes d'investissement 18 694,52 €.
Donc on va passer au vote. Les dépenses recettes de fonctionnement pour 2023 pour 10 239 653,25 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Les dépenses et recettes d'investissement pour 4 635 671,14 € pour 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Pour le service des pompes funèbres, les dépenses et recettes d'exploitation pour 19 367,70 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Les dépenses et recettes d'investissement pour 18 694,52 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, les quatre budgets sont validés à l'unanimité. Je vous en remercie.
Bonsoir. Moi, je vais vous parler du NEC et de l'exercice 2022. Afin de mieux appréhender l'enjeu de la demande de subvention du NEC auprès de la mairie de Saint-Priest-en-Jarret, il vous est communiqué les éléments d'activité suivants. Donc, activité 2022. Au titre de la saison 2022-2023, le NEC a recueilli 746 abonnements. Et l'an passé, nous en avions 656. Donc, on en a eu 90 de plus. L'origine géographique des abonnés était la suivante. 246 pour Saint-Priest-en-Jarret, soit 33%. 162 pour Saint-Étienne, soit 22%. Et 104 abonnements pour Villars, soit 14%. Donc si on additionne ces trois pourcentages, ça nous fait 69% des abonnés étaient donc d'origine de la commune, de Saint-Étienne ou de Villars. Pour la saison 2022-23, le NEC a proposé 20 spectacles tout public, 5 spectacles jeunes publics, 2 grands reportages et 7 spectacles pendant le Festival de théâtre amateur. J'en profite pour vous rappeler que le lancement de saison aura lieu le 30 mai 2023. À noter dans vos agendas. C'est ça. 11. Résultats financiers. La recette de la billetterie en 2022 s'élevait à 90 330 €. La subvention municipale était de 90 000 €, c'est-à-dire qu'elle représentait 49% des recettes d'exploitation. En dépenses, l'achat des spectacles atteignait 60% des charges d'exploitation. Bien sûr, c'est le plus gros poste. La location de matériel technique pour les spectacles se positionnait à 6% et les droits de production, dont la SACD, à 8%. En 2022, le résultat d'exploitation était excédentaire de 2 696,74 €, ce qui ne paraît pas énorme par rapport à l'achat du spectacle, etc. Quant aux excédents cumulés après affectation du résultat 2022, ils s'établissaient à 130 145,27 €. Pour tout vous dire, on pensait effectivement que cette année, on n'aurait pas autant d'abonnés, donc on pensait qu'on allait commencer à grignoter notre excédent. Mais on a eu un peu plus d'abonnés, tant mieux. Au budget primitif 2022, il avait été provisionné 45 000 € de billetterie. Et en fait, on a réalisé 90 000 €. On a eu le double de billetterie espérée. Tant mieux. On s'aperçoit que le mode de prise de billets a changé depuis le Covid. Les spectateurs prennent plus de place à l'unité, au coup par coup et moins d'abonnements. Compte tenu de la baisse de subvention de 5 000 € et de l'augmentation du coût des spectacles, le prix de session, les voyages, les hébergements, les restaurations que le NEC paye à ses comédiens, nous sommes obligés de réduire le nombre de spectacles cette année, pour la saison prochaine. Nous passerons de 20 à 18 spectacles et de 3 à 5 pour le jeune public. En plus, nous avons un régisseur qui est absent pour maladie, donc nous sommes obligés d'embaucher des régisseurs, des intermittents du spectacle à chaque spectacle, en plus de Jeannot, bien sûr. Voilà. Je vous propose donc de voter une subvention totale de 85 000 euros pour la régie, la gestion du NEC pour l'exercice 2023.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation ? Christine présente ses résultats après qu'on ait fixé la subvention. Si j'avais su, on aurait réduit davantage, mais bon. Non, c'est un deal. On a dit qu'on réduisait de 5 000 euros à peu près chaque année la subvention. Et là, bon, bah, les résultats, tant mieux, hein, ont montré une belle percée des abonnements, mais surtout des places de spectacle individuel, et c'est tant mieux. Donc on vous propose une subvention de 85 000, qui est contre ? Qui s'abstient, qui est pour, à l'unanimité, je vous en remercie. Alors le NEC fera peut-être partie, dans les mois ou dans les années qui viennent, d'un autre type de discussion, des enjeux, sur la compétence du NEC, compétence culture, reste municipale pour l'instant. Le débat est en train de s'ouvrir à la métropole, avec comme ligne de mire 2026. On verra bien. On va maintenant passer aux subventions aux associations. Donc, je pense que Rémi et Mireille vont se partager la présentation. Ce qu'il faut que vous reteniez simplement, c'est que par rapport à l'ensemble des demandes, on les a quasiment toutes satisfaites en l'état, en partant du principe que c'était des subventions de fonctionnement. Donc, il y en a certaines qui ont réduit d'office et je les en remercie. Celles qui ont demandé un petit peu plus, parfois, on les a ramenées à la subvention de l'an dernier. Et pour toutes celles qui auraient des projets, ce qu'on appelait avant les subventions à caractère exceptionnel, on va faire comme on l'a fait l'an dernier, c'est-à-dire qu'on les examinera à la rentrée, sur présentation d'un compte prévisionnel de résultats. Et celles, effectivement, qui seraient en difficulté par rapport aux événements, je pense au concours de boules ou à d'autres événements, on a eu une présentation d'Astromia la semaine dernière, etc. À ce moment-là, on examinera ces demandes complémentaires de subvention au regard de l'évolution de la situation et de notre budget, de notre capacité à les satisfaire.
Bonsoir à tous. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le tableau relatif au versement des subventions aux associations pour l'année 2023 qui se compose de cette manière. Alors, nous commençons par l'association des écoles. Nous donnons 400 euros par classe, ce qui permet aux écoles de Saint-Prier, aux classes, d'acheter du matériel, des livres, comme ils le souhaitent et comme ils en ont besoin. Il a noté cette année qu'il y a une classe en moins sur Jean Massé. Donc, sur la primaire Jules Ferry, nous avons 2000 euros. Sur la primaire, Georges Sand, 2000 euros. Maternelle, Georges Sand, 800 euros. Sur la maternelle, Jules Ferry, 1200 euros. La primaire, Jean Massé, 1200 euros. Et la maternelle, Jean Massé, 800 euros. Et puis, les 150 euros de subvention traditionnelle, la DDEN. Sur la maternelle. Voilà, pour l'association des écoles. Ensuite, donc on demandera aux élus concernés par les associations et qui sont dans les bureaux, bien sûr, de s'abstenir de voter. Donc, pour l'action culturelle, il y a... Oui. Alors, les actions culturelles. On a d'abord donc les chœurs de Saint-Prier, l'Arche chœur de Saint-Prier, pour une subvention de 1 600 euros. Donc là, oui, donc on va peut-être voter juste. Ça s'abstiendra. Bon. L'harmonie municipale de 3 000 euros, une subvention de 3 000 euros. La bibliothèque de l'hôpital Nord, 700 euros. Astromia 42, 500 euros. L'atelier photo, 800 euros. Et le club des chiffres et des lettres, 200 euros. Alors, ça, c'est dans l'action animation. Donc, on a voté là, oui. Action animation. Donc, nous avons une nouvelle association qui s'appelle Nature et Patrimoine, qui a pour but de préserver, de valoriser tout ce qui est des arbres, des fleurs, sur notre commune, qui a fait un gros travail sur le CRÉ. Pour laquelle nous donnons donc une subvention de 500 euros. Nous avons ensuite les œuvres sociales, le comité. Oui, mais on la nomme quand même, non ? Okay. Oui, je sais bien. Bon. Saint-Prix Animation, 800 euros. Les Saint-Priers de la Loire, donc, une association qui. Et essaie de rassembler les Saint-Priers de la Loire. Je dis essaie parce qu'il y a toujours une ou deux communes qui n'en font pas partie. 300 euros. Et puis, le club de la joie de vivre, 2500 euros. Voilà. Alors, ensuite, nous passons aux actions de solidarité. Nous avons Ayelou, donc une subvention accordée de 800 euros. Ensuite, le collecton, 300 euros. Donc, voilà. La banque alimentaire, 700 euros. La conférence Saint-Vincent de Paul, 1000 euros. La FNACA, 1000 euros. La compagnie des chats, donc qui nous aide un peu à gérer les chats sur notre commune comme ils peuvent. Parce que, voilà, c'est un peu compliqué. 300 euros. Le comité de jumelage avec Madagascar, 16 500 euros. Et le secours populaire, 1 200 euros. Et puis, je laisserai la parole à Rémi Mounier pour tout ce qui est des activités sportives.
Donc, bonsoir, Rémi Mounier. Donc, concernant les actions sportives, donc on va prendre dans le sens de la liste. Donc, il n'y a pas de changement notable pour les associations qui sont restées raisonnables dans leur demande de subvention, puisqu'elles sont à l'identique par rapport à 2022, ce qu'évoquait M. le maire précédemment. Donc Saint-Priant-Jarret, 9 000 euros. Saint-Priest, Volet, 300 euros. J'en profite pour préciser que l'association de Volet de Saint-Priest pratique le volet sur la commune de Lettra, collaboration avec la commune qui nous met le gymnase à disposition à titre gracieux. Donc, je remercie aussi la commune de Lettra pour cette mise à disposition et nous intervenons sur la partie fonctionnement du club en donnant une subvention de fonctionnement de 300 euros. Le Saint-Priest Foot, 11 000 euros. La gym volontaire, 1 000 euros. La natation, 6 000 euros. Et régulièrement, on participe au déplacement de la natation en fonction des championnats d'été et d'hiver. Donc on aura des demandes de subventions exceptionnelles. Le tennis club, 5 500 €. Le tennis de table, 2 000 €. Les Unity Chair Dance, 2 000 €. On a une subvention de 500 € pour les cyclos de Saint-Prié. Alors on voit qu'elle était de 800 € l'année précédente. En fait, jusqu'en 2022, on avait une association qui était mixte, Cyclo Sarbacane, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et puis, ils ont décidé de séparer les deux activités. Donc, c'est ce qui fait que cette année, plutôt que de faire 400 chacun, on a fait 500 chacun. Cyclo, 500 € et la Sarbacane, 500 €. Et on a les deux associations qui ont chacune leur activité respective. Saint-Prié Escalade, 1 500 €. On voit à côté la subvention exceptionnelle, puisqu'en fait, c'est la participation de la commune pour la mise à disposition du lycée, du gymnase du lycée de Simone Veil. Donc 2 000 €. Donc généralement, on a la demande de subvention qui vient en début d'année avec la délibération du lycée et de la région. Donc on aura cette demande exceptionnelle à gérer un peu plus tard. Le cercle de Saint-Prié, 1 500 €. On a déjà anticipé, puisqu'en fait, ils organisent cette année les championnats de France FSCF au mois de juin. Donc, on a déjà anticipé une subvention exceptionnelle de 500 €. Donc, voilà pourquoi on passe de 1 000 à 1 500 €. 1 000 € pour le cercle prolétaire. Donc, l'association du lycée Simone Veil, pas de subvention. L'avenir du Bois-Monzil, 700 €. 400 € pour le groupement bouliste. 1 000 € pour la boule des Trois Glorieuses. Le handball, hélas, l'association n'existe plus. Et les 1 000 pattes mounards, on reste à 250 €. Je ne pense pas qu'autour de cette table, il y ait des personnes adhérentes à ces différentes associations sportives, en tout cas membres du bureau. Ou alors je me trompe. Non, ça n'a pas l'air.
Donc on va passer au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc à l'unanimité, ces subventions sont validées.
Il nous reste quelques subventions, notamment pour la vie sociale. Nous avons les jardins familiaux pour donc une subvention de 600 €. Le CECAM, le club des entreprises mounardes, 1 000 €. Et Perle Tissu Évasion, 700 €. Les voyages scolaires, donc cela dépendra du nombre de voyages, de la sollicitation qu'on aura dans l'année. Voilà, donc on a.
Donc je vous demande de bien vouloir voter ces trois subventions et puis le principe des voyages scolaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc à l'unanimité, ces subventions sont accordées. Et je vous en remercie.
Très bien. Donc la plus grosse subvention est accordée à l'association, le comité des œuvres sociales, le COS. Donc c'est le comité des œuvres sociales de la mairie qui organise des voyages, qui organise des repas, c'est une action sociale en faveur du personnel de la mairie. Donc monsieur le maire expose, conformément à l'article 10 de la loi 2321 et à l'article 1 du décret 2001-495, l'autorité administrative qui attribue une subvention supérieure à 23 000 € doit conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie. Le comité des œuvres sociales de la mairie bénéficie d'une subvention supérieure à ce montant. Il convient aujourd'hui d'approuver la convention financière jointe pour l'exercice budgétaire 2023 pour le versement d'une subvention de 25 500 € au COS, et d'autoriser monsieur le maire à signer ce document.
Donc je me suis procuré les résultats du COS pour 2022. Ils ont eu en dépenses 92 857 €, en recettes 93 169, donc un résultat excédentaire de 312 €. Des questions par rapport au COS? Donc c'est un financement qu'on leur accorde chaque année. Je vous rappelle que ça, c'est la subvention de fonctionnement, qu'en fin d'année, en fonction des retraités et des médaillés du travail, le COS offre un petit cadeau à ces personnes-là. et nous demande de les en rembourser. C'était un système qui a été d'ailleurs relevé à une époque, parce que c'était la mairie qui accordait directement et ça avait été mis en cause par les autorités de tutelle. Donc, qui est contre cette subvention? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Ensuite, le point 11, ce sont les décisions du maire. Donc, comme chaque conseil, vous avez l'ensemble des décisions que j'ai pu prendre entre deux conseils. Bon, je n'ai rien relevé de très particulier. Vous les avez eues. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Bien, mais écoutez, Frédéric, bon, je me souviens, j'aime les votes ou pas? Non, on les vote pas. Hein. C'est une simple information. Et on va passer donc au point 12, les acquisitions et cessions immobilières.
Donc, comme toutes les années, on vous présente ça, puisque monsieur le maire expose l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les conseils municipaux doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières, et ce, dans le but d'apporter une meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par les collectivités territoriales. Donc, on vous propose le tableau ci-dessous. En acquisition, ben, on n'a rien acheté comme terrain en 2022. Par contre, on a vendu 3 terrains. Un terrain non bâti rue Jean Moulin à Monsieur et Mme Chassin pour 60 000 euros. Un terrain non bâti rue Jean Moulin à Monsieur et Mme Garon pour 35 000 euros. Et le terrain non bâti du Charpenais rue Ambroise Croizat à la SAS Lotisseur de la Loire pour 265 000 euros. Voilà, donc on vous demande d'approuver ce tableau.
Qu'on soit d'accord, ce ne sont pas des cessions définitives. Hein. On les a effectuées. Vous savez que pour... alors, je regarde un peu. Ça, c'était celui de l'an dernier. Sur le Charpenais, on a signé le compromis. Pour M. Chassin, on devrait le signer prochainement. Et M. Garon, on attend toujours le retour de leur validation du prix de cession. Voilà. Donc, par rapport à ces cessions, on va vous demander de les valider par le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On ne vote pas. Eh bien, on s'abstient. Et puis voilà. Les mutuelles communales. Alors là aussi, c'est une actualisation. Je vous rappelle que dans le cadre de notre politique sociale visant à améliorer les conditions d'accès à une couverture de frais de santé, la commune souhaite accompagner l'accès aux deux dispositifs suivants à disposition des habitants. Ma commune, ma santé, portée par l'association Axiom, et ma santé, portée par AXA France. L'objectif est d'offrir la possibilité aux Mounards de souscrire à une complémentaire santé à des conditions et des tarifs préférentiels, sans aucune charge ou participation de la commune. La seule contrainte qu'on ait, c'est de leur mettre la salle à disposition. La convention avec AXA France, approuvée lors de la séance du conseil municipal du 21 février 2022, est arrivée à échéance. Il convient donc de la renouveler et il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention jointe et de m'autoriser à la signer. Si AXA nous demande de la signer, c'est que ça a relativement bien marché, et en conseil et en souscription. Donc on a répondu à une attente formulée par un certain nombre de nos habitants. Des questions? On peut renouveler la convention? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, on renouvellera donc cette convention. Vous avez reçu également un projet de convention avec EPORA, qui est donc notre partenaire, je vous rappelle, dans l'acquisition des îlots 2 et 3. En tant qu'établissement public national à caractère industriel et commercial, chargé de mission de service public, l'EPORA, établissement public Ouest-Rhône-Alpes, est compétent pour procéder à toutes acquisitions foncières et toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il est ainsi habilité à effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, à participer à leur financement. La commune de Saint-Priant-Jarret et Saint-Étienne Métropole, compétentes en matière d'habitat et d'économie, ont décidé d'engager une démarche de requalification de l'habitat et de commerce dans le centre-bourg de la commune. À cette fin, les parties ont souhaité instaurer une relation de coopération afin de réaliser leur mission commune de service public. Lors de la séance du conseil municipal du 3 juin 2019, vous avez approuvé, enfin le conseil municipal a approuvé une convention d'études et de veille foncière avec l'EPORA et Saint-Étienne Métropole pour conduire les études préalables permettant de préciser le périmètre opérationnel d'initiative publique, la définition du projet ainsi que ses conditions de faisabilité, de financement et de mise en œuvre pour une durée de 4 ans. Dans le cadre de l'opération précitée, l'EPORA propose une nouvelle formule de convention qui s'appellera désormais convention de veille et de stratégie foncière afin d'assurer une continuité de service. Cette convention couvre l'intégralité du territoire de la commune et a une durée de 6 ans. Elle permet de réaliser des études de faisabilité et de préemption sur n'importe quel secteur de la commune, moyennant les montants suivants. Donc on aurait un montant en cours, enveloppe destinée aux préemptions durant toute la durée de la convention de 1 million de francs et le montant des études de faisabilité de 150 000 euros. Donc en fait, c'est une nouvelle convention qui va se substituer à la précédente. Je vous propose donc d'approuver cette convention de veille et de stratégie foncière pour une durée de 6 ans avec l'EPORA et Saint-Étienne Métropole et de m'autoriser à la signer. Pour nous, ça ne nous engage à rien, ça ne change strictement rien dans les opérations réhabilitation centre-bourg îlot 2 et 3. C'est simplement une actualisation de cette convention. Des questions par rapport à ça? Pourquoi? L'appréhension? La préemption, ça veut dire que quand un bien est mis en vente, des entités comme la commune a un droit de préemption, c'est-à-dire un droit de prendre prioritairement. L'EPORA se substitue à la collectivité à Saint-Étienne Métropole. Ça veut dire que s'il y a un bien qui va être vendu, si nous on voulait préempter et passer par EPORA, il faudrait qu'on revienne devant vous, qu'on fasse une convention spécifique avec EPORA pour leur demander de préempter. Là, il y a un automatisme. Un bien est mis en vente, on dit ça nous intéresse, il préempte. Nous, Métropole d'ailleurs, hein, nous, Métropole, puisqu'on est les co-partenaires de cette convention. Mais il y a aussi une phase d'études foncières et d'études de faisabilité. D'autres questions? Oui, Jacques. Après, je ne sais pas quelle est la hiérarchisation. La préemption, elle doit être motivée par un projet. On ne peut pas préempter pour le plaisir de préempter. Donc c'est le projet, à mon avis, le plus porteur ou pertinent qui sera envisagé. Après, c'est peu probable que sur un bien, on ait les mêmes enjeux et les mêmes projets que la métropole. Je m'explique, on va se porter acquéreur éventuellement d'une maison et d'un terrain. Il n'y a pas d'enjeu pour métropole. Il y a un terrain de 50 000 m², il peut y avoir un enjeu pour métropole, pas pour nous. Parce que c'est pareil, après, préempter. EPORA préempte pour notre compte. Mais après, ils nous rétrocèdent le prix de cession qu'ils ont payé. Donc on n'est pas dans les mêmes fourchettes de partenariat. Simplement, bon, Métropole est cité parce que c'est eux qui gèrent tout le côté foncier, habitat et économie. Après, on n'a pas, nous, sur notre territoire, suffisamment d'enjeux pour intéresser la Métropole. Ils pourraient se positionner. Oui, ils pourraient se positionner. Mais il faut qu'ils aient un projet. Pourquoi faire? Saint-Étienne Métropole n'a pas vocation à construire. Non, mais ils n'ont pas vocation à construire. Ça serait une friche industrielle. Oui, parce que là, il y a une politique métropolitaine de réhabilitation des friches industrielles. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est un terrain constructible, c'est tout. Hein. Alors, ils le font, ils préemptent, ils achètent, mais dans des projets. Par exemple, sur la réhabilitation des rives du Furan, par exemple, où ils découvrent le Furan, ils achètent les terrains. Sur la section du Furan entre le pont de l'Étra et le CHU, ils vont acheter les berges. Là où ça sera utile pour pouvoir dégager et puis réaménager le cours du Furan. Mais on a eu, nous, d'ailleurs, des contacts avec et des sollicitations avec Métropole. On n'est pas concerné parce que si on prend ce tronçon entre le pont de l'Étra et le CHU, de notre côté, jusqu'au Clos Sagnol, jusqu'au Pré Sagnol, la ferme Sagnol, c'est encore l'Étra, et après c'est le Charpennais. Donc il n'y a pas d'hypothèse, si vous voulez, de cession foncière que Métropole pourrait acquérir. D'autres questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Et donc c'est adopté à l'unanimité, et je vous en remercie. Je n'ai pas posé la question, excusez-moi, bah oui, mais ça arrive. Qui est pour? Qui est pour? Levez les mains, je vais les compter. Excusez-moi, c'est vrai qu'il y a un côté un peu automatique. Mais c'est comme ça. Comment ? Oui, d'accord. Non, non, mais ok, je vais... Oui, c'est bien, c'est très très bien. C'est pour ça que vous rigoliez tout à l'heure. Je me doutais. Mais moi, je ne vois pas là derrière et voilà. Bon, allez, on continue. Sur le RIFSEP, comme à chaque fois, donc le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, expertise et de l'engagement professionnel, c'est une mise à jour. Alors, les patents en termes de montant annuel, je vous rappelle que l'État nous fixe des montants sur lesquels, quand on en accorde, on applique des coefficients. Donc, c'est le montant multiplié par le coefficient qui va nous donner le montant de la prime. Il n'y a rien de changé par rapport à l'an dernier, sauf dans la catégorie B, on a créé, on voit apparaître dans groupe 1 un nouvel emploi, assistant et assistante éducatif petite enfance, avec un montant de référence de l'IFSE de 2 250 €. C'est simplement rajouté. Tous les autres montants et catégories restent inchangés. Et pour le complément indemnitaire annuel, vous voyez, on arrive en fin de journée, ça commence à être lourd. Toujours en catégorie B, on voit apparaître à nouveau le groupe 1, assistant et assistante éducative de petite enfance, pour un montant de référence de 246 €. Donc c'est un tableau qui, au niveau des montants, ne change rien, qui intègre simplement une nouvelle catégorie. Donc je vous demande simplement, là aussi, de le valider. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Et je vous remercie. Pour la modification du tableau des effectifs par délibération 22-07-17 et 22-11-13, un poste de rédacteur, d'animateur, d'adjoint administratif principal de première classe, d'adjoint administratif principal de deuxième classe et d'adjoint administratif avait été ouvert sur la quotité de 75% du temps plein pour permettre le remplacement de deux agents radiés des cadres de la collectivité au service enfance, jeunesse et vie associative. Aucun recrutement n'est intervenu, les postes ayant été pourvus par voie de mutation interne. Il convient donc de les supprimer du tableau des effectifs. Ça, c'est la première chose. Cette année, pour tenir compte des propositions d'avancement de grade effectuées auprès du centre de gestion de la Loire et des radiations des cadres pour départ en retraite, il convient d'ouvrir 3 postes d'adjoints administratifs principaux de première classe, 1 poste d'agent de maîtrise principal, 5 postes d'adjoints techniques principaux de première classe, dont 2 à temps non complet à raison de 80,77%, un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe, un poste d'adjoint du patrimoine principal de première classe. De plus, la commune propose en commission paritaire, ouverte auprès du centre de gestion, des agents de la collectivité à la promotion interne au grade de rédacteur, ingénieur ou agent de maîtrise. Si leur promotion est actée en commission, leur nomination ne pourra intervenir qu'à condition que le ou les grades concernés soient également ouverts au tableau des effectifs de la commune. Il convient donc d'ouvrir 1 poste de rédacteur, 1 poste d'ingénieur et 3 postes d'agent de maîtrise. Enfin, il convient d'ouvrir 1 poste sur chacun des grades du cadre d'emploi des adjoints du patrimoine à temps non complet, à raison de 50% du temps plein, pour permettre de pallier au départ en retraite d'un agent de la médiathèque et la réorganisation de ce service. Donc vous avez compris que par rapport au tableau des effectifs, on retire un certain nombre d'emplois qui étaient prévus, parce qu'il y a eu donc des mouvements au niveau du personnel, et d'actualiser en fonction des demandes de promotion qu'on envisage, mais surtout les demandes d'évolution de carrière, enfin de promotion, qui dépendent cette fois-ci du centre de gestion. On formule pour ces agents-là des demandes. Il y a une commission paritaire représentant des maires, puisque c'est son gestion, représentant des salariés et des syndicats, et qui statue sur chaque dossier. On a très très peu de réussite historiquement dans cette démarche, mais c'est comme ça. Bon, il y a beaucoup de demandes et très peu d'élus en fait. Le problème, c'est qu'il y a des élus dans la commission. Ouais. Donc voilà, je ne vais pas vous reprendre l'ensemble des points, simplement c'est une actualisation du tableau des effectifs. Avez-vous des questions par rapport à ça ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, l'actualisation est validée à l'unanimité. On avait également, je pense que vous l'avez trouvé sur table, une autre délibération qu'on a rajoutée. Vous ne devez pas en être surpris. C'est la convention d'objectifs avec le ID Club. Donc je vous propose de bien vouloir signer une convention d'objectifs ID Club avec le tennis club de Saint-Prix-en-Jarret, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis et le comité départemental de tennis de la Loire. Cette convention définit les objectifs du projet éducatif et sportif du tennis club de Saint-Prix-en-Jarret et la manière dont le tennis club pourra être accompagné par les autres parties. La commune de Saint-Prix-en-Jarret s'engage à mettre à disposition les infrastructures dans le cadre d'une convention et à soutenir au mieux de ses possibilités le club dans la mise en œuvre de son projet associatif. Donc je vous demande de bien vouloir m'autoriser, de bien vouloir approuver la convention précitée et m'autoriser à la signer. Je vous rappelle qu'on s'était rencontré la semaine dernière avec son président qui nous avait présenté une démarche que j'ai trouvée très intéressante. Et le seul engagement que nous ayons, c'est mettre à disposition les infrastructures dans le cadre de la convention et soutenir au mieux nos possibilités le projet associatif. Ce qui ne nous engage pas pour autant en termes d'infrastructures, malgré, et ça on en reparlera ultérieurement, les engagements que j'avais pu prendre au début du mandat. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc on valide cette convention avec le tennis club de Saint-Prié. Voilà, moi j'en ai fini sur l'ordre du jour du Conseil. Est-ce que chacun a bien signé les feuilles qui circulaient ? Bon, c'est parfait. Est-ce que vous avez éventuellement, hors procès-verbal, des questions ou des interrogations ? Bon, alors moi je vais faire un petit point sur le Conseil métropolitain de jeudi dernier où j'étais avec Michel. On a commencé à 14h30, nous on est partis à 21h. Et il n'y avait plus que les motions après, les motions qui allaient être examinées. Donc bien évidemment, on est hors procès-verbal du conseil municipal. Bon, c'est un conseil qui s'est plutôt... Oui. Coupé. De toute façon, moi, j'aurais coupé au retour.